Chapitre 12. Et ils vécurent. Il faut annoncer l'appel longtemps à l'avance, car les gens doivent être prévenus avant que la magie de l'art ne les touche pour la première fois. En effet, un appel lancé sans avertissement peut provoquer de grandes angoisses, et ceux qui présentent des dispositions à l'art, ignorer à quel phénomène ils ont affaire, et craindre d'avoir sombré dans la folie ou pire. Aussi qu'on envoie préalablement des cavaliers partout porter la nouvelle. Toutefois, qu'ils taisent la date exacte où sera lancé l'appel. Par le passé, on a perdu beaucoup de temps à tenter d'éveiller l'art chez certains qui venaient à Castelserre en prétendant avoir entendu l'appel, alors qu'en réalité, ils ne cherchaient qu'à échapper à une vie de fermier, de boulanger ou de notonnier. On confiera les missions au clan le plus puissant du château, afin qu'elle s'étende le plus loin possible. On ne lancera pas d'appel plus d'une fois tous les 15 ans. De l'appel des candidats. Bois coudé. Malgré tous mes efforts, je n'y tins plus. Un mois après le départ de Patience, je cédai à un élan et envoyai à Molly un grand bocal de baies de palomier en conserve. Je demandai à Crible s'il n'était pas trop occupé pour me servir de messager. Il parut surpris de ma question, car il m'apprit qu'on lui avait ordonné plusieurs semaines auparavant de se considérer comme à mes ordres. Imbre avait entrepris d'opérer un certain nombre d'ajustements quant à ma position depuis que je prenais une part plus active aux affaires des loin-voyants. Ma façade de membre ordinaire de la garde princière s'effaçait pour laisser la place à un rôle de serviteur officieux de la famille royale dans des domaines plus confidentiels. Je conservais mon identité de Tom Blaireau, mais ne portais plus que rarement l'uniforme, et j'arborais désormais toujours sur ma poitrine l'épingle au renard. La mission sembla étonner Crible, mais il emporta le présent et le livra. Qu'a-t-elle dit? J'avais attendu son retour en tremblant. Il me regarda sans avoir l'air de comprendre. À moi, rien? J'ai remis le bocal au jeune gars qui m'a ouvert la porte, mais je lui ai bien indiqué qu'il était pour sa mère. Ce n'est pas ce que tu voulais? J'hésitai un instant, puis répondis. Si, si, tu as très bien fait. Le mois suivant, j'envoyai une lettre où je louais Horty de ses études et la décrivais comme plus à l'aise à la cour. J'appris aussi à la famille que Tram nous avait informé par oiseau messager que l'Est et lui passeraient sans doute l'hiver chez le duc et la duchesse de Béarn. Il paraissait très satisfait de l'enfant. Je pensais que Molly se réjouirait de savoir son fils en bonne compagnie et d'être tenue au courant de ses progrès. Je ne parlais que de ses enfants, et joignis à la missive deux pantins, un ours sculpté et un sachet de bonbons au marub. Crible me fit de la livraison un compte-rendu un peu plus encourageant. Un des gamins a dit qu'il aimait bien le marub, mais pas autant que la moindre poivrée. Un mois plus tard, deux sachets de bonbons, les uns au marub, les autres à l'amande poivrée, ainsi que des noisettes et des raisins secs, accompagnèrent mon rapport sur Horty, ce qui me valut une réponse laconique de Molly au dos de ma missive. Elle appréciait de recevoir des nouvelles de sa fille, mais me priait de bien vouloir cesser d'essayer de rendre ses enfants malades à force de sucrerie. Ma lettre suivante donnait, comme il se devait, des nouvelles d'Horty, ainsi que de l'Est, qui avait attrapé la fièvre marbrée en même temps que tous les enfants de Castelonde, en Béarn, mais avait bien guéri et se portait désormais comme un charme. La duchesse en personne s'était prise d'intérêt pour lui et lui apprenait la fauconnerie. À part moi, je me demandais en quoi consistait son enseignement, mais je gardais pour moi ses interrogations. Au lieu de friandises, je joignis deux poches de billes en terre cuite, un cure-pied de maréchal ferrant d'une facture exceptionnelle, dans un étui en cuir, et deux épées d'entraînement en bois. Crible me rapporta d'un air amusé qu'Âtre avait flanqué un coup d'épée sur la tête de Juste avant que lui-même eût le temps de mettre un pied à terre, et qu'il avait refusé à Agile d'échanger son arme contre le sac de billes que j'avais prévu pour lui. Je vis comme un signe de bon augure que le jeune garde connut désormais les enfants par leur prénom, et qu'ils fussent tous sortis pour l'accueillir. La réponse de Molly me refroidit un peu. Juste avait souffert d'une bosse considérable, dont elle me rendait responsable. Les petits avaient aussi été déçus que la lettre ne s'accompagnât pas de bonbons, ce qu'elle me reprochait également. Elle recevait mes lettres avec plaisir, mais me priait de cesser de semer le trouble dans sa famille par mes cadeaux inopportuns. Il y avait aussi un mot de chevalerie, qui me remerciait dans un style guindé pour le cure-pied. Il me demandait si je savais où me procurer de l'huile de carthème, car une des juments présentait une infection tenace à un sabot, et il lui semblait se rappeler que son père employait ce produit dans ce genre de cas. Je n'attendis pas un mois. Je trouvai tout de suite la substance en question et la fis parvenir à chevalerie avec instruction de laver soigneusement au vinaigre les 4 sabots de la jument, de l'installer dans un autre box, puis de lui appliquer l'huile sur tous les sabots, à l'extérieur et à l'intérieur. Je lui suggérai encore de répandre une bonne épaisseur de cendre de cheminée dans son ancien box, de l'y laisser 3 jours, puis de la balayer, de laver le sol au vinaigre et de n'y reloger un cheval qu'après séchage complet. Dans un élan de bravade, je joignis à la lettre et au flacon des sucres d'orge, en le priant de les rationner, afin que nul ne souffrît de maux de ventre. Dans sa réponse, il me remercia pour l'huile, en avouant avoir oublié qu'il fallait du vinaigre pour le traitement. Il souhaitait savoir si je connaissais les proportions exactes de certains liniments que concoctait Burick, car celui qu'il avait lui-même fabriqué était trop liquide. Et il m'assurait qu'il distribuerait les friandises en fonction du mérite de chacun. Une note de Molly accompagnait son billet, mais clairement intitulée « Pour Horty ». Calme m'a dit qu'en réalité, ils préféraient tous l'amande poivrée, m'annonça Crible en me remettant la lettre de chevalerie. J'ai l'impression que c'est le gamin de la famille qu'on n'entend jamais, tu sais, le gosse doux et gentil qui passe inaperçu au milieu des chahuteurs. Avec un sourire espiègle, il ajouta « J'étais comme ça, petit !»« Je n'en doute pas, » fis-je, sceptique. « Il y a une réponse ?» me demanda-t-il. Je lui dis qu'il me fallait un peu de temps pour y réfléchir. Je dus œuvrer plusieurs jours avant de parvenir à la composition correcte du liniment, et je pris alors conscience de tout ce que j'avais oublié. J'en préparai plusieurs pots que je bouchais avec soin. Ce jour-là, Humbre fit une de ses rares visites à la vieille salle de travail que nous partagions autrefois. Il huma l'air d'un air pensif, puis s'enquit de ce que je concoctais. « Des pots de vin, » déclarai-je avec franchise. « Ah !» Comme il ne cherchait pas à en savoir davantage, je compris que Crible continuait à l'informer lui aussi. « Tu as apporté quelques modifications ici, à ce que je vois, » reprit-il en parcourant la pièce des yeux. « À l'aide d'un balai et d'un seau d'eau, principalement. Je donnerais beaucoup pour avoir une fenêtre. » Il me lança un regard étrange.
« La pièce voisine n'est jamais occupée. Elle appartenait jadis à Dame Tain. On raconte que son fantôme la hante encore, paraît-il, que des odeurs bizarres s'en échappent et qu'on y entend des bruits la nuit. »
Il eut un sourire malicieux.
« Elle m'a bien servi, cette vieille sorcière. J'ai bouché la porte de communication il y a de longues années. Elle se trouvait derrière cette tenture, là. Tu pourrais sans doute démolir le mur de briques que j'ai monté, à condition de t'y prendre discrètement. »
Démolir un mur discrètement.
Ça risque d'être un peu difficile, en effet.
Un peu? J'essaierai peut-être. Je vous tiendrai au courant.
Une autre solution consisterait à déménager Horty de ta chambre d'autrefois. Tu pourrais te la réapproprier.
Je secouai la tête. Je garde l'espoir qu'un temps viendra, où elle aura envie d'emprunter le passage secret pour monter bavarder avec moi le soir.
« Mais tu ne progresses guère de ce côté-là. »«
Hélas, non. »«
Ah, elle a la tête aussi dure que toi au même âge. Méfie-toi d'elle si elle s'approche du linteau de la cheminée avec un couteau à fruits. »
Je regardais celui qui dépassait du bois de l'âtre, planté aussi profondément que ma colère d'enfant avait pu l'enfoncer. J'y songerai.
« Rappelle-toi aussi que tu as fini par me pardonner. »
Je décidai d'envoyer Crible porter le liniment, accompagné d'un sac de pastilles de menthe, d'un peu de thé épicé et d'un petit daim articulé.
« Non, ça ne me va pas, » me dit le jeune garde. « Ajoute au moins quelques toupies, qu'il y ait quelque chose pour chacun. »
Ainsi fut fait. D'un air innocent, il me proposa d'adjoindre au colis quelques mirlitons, mais je lui répondis que je m'efforçais de glisser un pied dans la porte de Molly, non de l'inciter à m'assassiner. Avec un grand sourire, il acquiesça de la tête, puis il se mit en route et resta absent 2 jours à cause d'une tempête de neige. Il rapporta des lettres, une pour moi, une pour Horty, et m'apprit qu'il avait partagé le repas de la famille et dormi dans les écuries après 5 ou 6 parties de cailloux avec calme chaque soir. Je t'ai dépeint sous le meilleur jour quand Chevalerie m'a prié de lui parler de toi. J'ai dit que tu passais tes nuits à travailler sur tes manuscrits et que tu n'allais pas attarder à te transformer en scribe si tu ne faisais pas attention. Du coup, Âtre a demandé « Il devient gros alors ?» Parce que si j'ai bien compris, leur scribe local se porte plutôt bien. J'ai répondu non, qu'au contraire, il me semblait que tu maigrissais et que tu devenais de plus en plus taciturne, et aussi que tu restais plus seul qu'il n'est bon pour la santé. Je lui fis des gros yeux. « Tu n'as rien trouvé d'autre pour noircir encore le tableau ?» Il me rendit ma mimique. « Y a-t-il quoi que ce soit de faux dans ce que j'ai décrit ?» La lettre venait de Chevalerie. Il me remerciait pour le liniment et sa recette. J'ignore ce que contenait celle de Molly Aorti. Le lendemain matin, celle-ci tarda à sortir à la fin de la leçon d'art. Devoir lui demanda si elle avait envie de les accompagner, Civil, Sidèle, Eliania et lui-même, pour une promenade à cheval. Elle lui répondit qu'il n'avait qu'à se mettre en route sans l'attendre et qu'elle les rattraperait facilement, car elle ne passait pas des heures, elle, à se pomponner avant une balade. Elle se retourna vers moi et surprit mon sourire. En public, je lui parle de façon plus protocolaire. Il n'y a qu'ici que je m'adresse à lui de cette façon. Ça lui plaît. Il était ravi quand il a appris qu'il avait une cousine. Et par la suite, il s'est déclaré enchanté de connaître enfin quelqu'un qui lui disait le fond de sa pensée. Son expression se figea, et je regrettai ma dernière remarque, car il me semblait qu'elle voulait s'entretenir avec moi, et je craignais de l'avoir coupée dans son élan. Mais elle planta ses yeux dans les miens, leva le menton et posa les poings sur les hanches. « Tiens donc, et tu voudrais que je te le dise à toi le fond de ma pensée ?» Je n'en savais trop rien. « Pourquoi pas ?» Ma mère m'écrit qu'elle va bien, et que mes petits frères apprécient les visites de Crible. Elle se demande si c'est parce qu'ils te font peur que tu ne viens pas en personne. Je m'affaissais dans mon fauteuil et regardais le dessus de la table. J'aurais plutôt peur d'elle, je crois. Autrefois, elle avait le caractère emporté. Autrefois, à ce que j'ai compris, tu avais un talent certain pour l'attiser. Sans doute, oui. Alors, tu penses qu'elle verrait d'un bon œil une visite de ma part? Elle se tut un long moment. Enfin, elle demanda « Et mon caractère à moi, il te fait peur aussi ?»« Un peu, avouai-je. Pourquoi cette question ?» Elle se dirigea vers la fenêtre de vérité, d'où, comme lui, elle contempla l'océan. Ainsi campée, elle avait l'air aussi loin-voyant que moi. Discrètement, elle se passa les mains dans les cheveux. En toute franchise, elle eût pu passer un peu plus de temps à se pomponner. Sa chevelure rase se dressait comme la fourrure d'un chat en colère. Avant, je m'imaginais que nous allions devenir des amis. Et puis, j'ai appris que tu étais mon père. De ce jour, tu n'as même plus essayé de m'adresser la parole. Je croyais que tu n'en avais pas envie. Et si j'avais envie de voir quels efforts tu étais prêt à faire ? Elle se retourna pour poser sur moi un regard accusateur. Mais tu n'en as fait aucun. Je me tus. Et le silence s'éternisa. Elle commença de se diriger vers la porte. Je me levai. Tu sais, Horty, j'ai grandi dans un milieu presque exclusivement masculin. Parfois, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas pire désavantage quand on est un homme dont on puisse souffrir dans les relations avec les femmes. Elle s'arrêta net et me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Je lui ouvris mon cœur. Je ne sais pas quoi faire. Je voudrais que tu me connaisses au moins en tant que personne. Burick était ton père, et il jouait ce rôle à la perfection. Peut-être est-il trop tard pour que je tienne cette place dans ton existence. Je n'en trouve pas non plus dans celle de ta mère. Je l'aime toujours, autant qu'à l'époque où elle m'a quitté. Je croyais alors qu'une fois mon travail achevé, je la rejoindrais et que nous nous débrouillerions pour découvrir le bonheur ensemble. Mais nous voici 16 ans plus tard et je ne parviens toujours pas à revenir auprès d'elle. Elle resta immobile, la main crispée sur la porte, l'air mal à l'aise. Enfin, elle répondit « Peut-être, n'adresses-tu pas ces propos à la bonne interlocutrice ?» Et elle sortit sans bruit, en laissant le battant se refermer derrière elle. Quelques jours après, Crible entra dans le réfectoire des gardes où je prenais mon petit déjeuner. Il se glissa sur le banc, en face du mien. Ortimer mit une lettre pour sa mère et ses frères, en me priant de l'emporter lors de mon prochain trajet. Il tendit la main et s'empara d'un bout de pain dans mon assiette. Il y mordit à belles dents, puis me demanda la bouche pleine. « C'est pour bientôt ?» Je réfléchis. Demain matin, il hocha la tête. « Je m'en doutais. » Je descendis au marché d'hiver de Bourg de Castelserre, monté sur ma noire avec laquelle je dus me battre tout le long du chemin pour qu'elle accepte de m'obéir. Elle avait passé 6 mois avec un palefrenier qui, en guise d'exercice, la menait dehors, la laissait courir autant qu'elle le souhaitait, puis la ramenait aux écuries. Rétive et brusque, elle tirait sur son mort, ne répondait pas aux rênes, et j'avais honte de l'avoir ainsi négligée. Mais en plate fête, je remontais au château avec du gingembre sucré et 2 longueurs de bras de dentelle rouge, que je plaçais dans un panier en compagnie d'une bouteille de vin de pissenlit chipée aux cuisines. Puis je restais toute la nuit devant une feuille de papier fin et finis par écrire 3 phrases. Je te revois avec ta jupe rouge. Tu gravissais la falaise de la plage devant moi, et je voyais tes chevilles nues, couvertes de grains de sable. J'avais l'impression que mon cœur allait bondir de ma poitrine. Se rappelait-elle seulement ce déjeuner sur la grève, il y avait si longtemps, où je n'avais même pas osé l'embrasser. Je scellai la lettre d'une goutte de cire. 4 fois je la rouvris et tentai d'améliorer ma formulation. Finalement, je la remis telle qu'elle à Crible, puis passai les 4 jours suivants à tourner comme un ours en cage, rongé d'inquiétude. Le 4e soir, je baissai le levier qui ouvrait la porte secrète dans la chambre d'Ortie. À la différence d'Imbre, qui descendait me chercher, je ne fis que la moitié du trajet et déposai une chandelle au milieu des marches, après quoi je remontai et pris patience. L'attente parut durer une éternité. J'ignore ce qui la réveilla, de la lueur ou du courant d'air, mais j'entendis enfin son pas hésitant dans les degrés. J'avais allumé une belle flambée dans la partie la plus accueillante de la salle. Elle jeta un coup d'œil par le panneau dérobé, m'aperçut, mais n'en entra pas moins avec la prudence d'un chat. À pas lents, elle passa devant la table où s'étalaient toujours des manuscrits tachés d'huile, puis, plus lentement encore, devant le foyer de travail avec ses pinces, ses mesures et ses bacs piqués de rouille, tous proprement rangés. Enfin, elle arriva au fauteuil près de l'âtre. Elle portait une chemise de nuit et un châle en laine sur les épaules, mais cela ne l'empêchait pas de frissonner. « Assieds-toi, » lui dis-je, et elle obéit, toujours avec un luxe de précaution. « C'est ici que je travaille, » ajoutai-je. L'eau de la bouilloire commençait à frémir et je lui demandais, « As-tu envie d'une tasse de tisane ?»«
En pleine nuit ?»
Une grande partie de mes activités se passe en pleine nuit.
Alors que la plupart des gens dorment?
Je ne suis pas comme la plupart des gens.
En effet.
Elle se leva pour aller examiner les objets posés sur le manteau de la cheminée. La sculpture de loup que le fou avait exécutée, et à côté, la pierre de mémoire avec une gravure similaire sur la facette tournée vers elle. Elle effleura le manche du couteau à fruits enfoncé dans le bois et me jeta un regard intrigué. Puis, elle tendit le bras et toucha la garde de l'épée de chevalerie. « Tu peux la décrocher si tu veux. » C'était celle de ton grand-père. « Fais attention, elle pèse. » Elle écarta sa main.
« Parle-moi de lui. »
« Je ne peux pas, hélas. »«
Ah ? Encore un secret ?»«
Non. Je ne peux pas parce que je ne l'ai pas connu. Il m'a confié à Burik quand j'avais 5 ou 6 ans, et je ne l'ai jamais vu. » Autant que je m'en souvienne. Je crois qu'il se servait de l'art pour jeter un coup d'œil sur moi de temps en temps, par le biais de vérité, mais je n'en savais rien à l'époque.
« Un peu comme toi et moi ? »
fit-elle d'une voix lente.
« Oui,
c'est exact, reconnus-je, à cette différence que j'ai désormais l'occasion de te connaître, à condition que nous ayons le courage de la saisir, l'un et l'autre.
« Je suis là. »
répondit-elle en s'installant plus confortablement dans son fauteuil. Elle se tut, et je ne trouvais rien pour meubler le silence. Brusquement, elle désigna du doigt la sculpture du fou.
« C'est ton loup, œil de nuit ?»«
Oui. » Elle sourit.
« Il ressemble tout à fait à l'image que je me faisais de toi. Dis-moi davantage sur lui. » Je m'exécutai. Crible revint 3 jours plus tard en se plaignant de l'état des routes, du froid et de la tempête qui l'avait accompagné jusqu'au château. Sans l'écouter ou presque, je pris avec précaution le petit rouleau de papier d'écorce qu'il me tendit et l'emportai dans ma tanière avant de l'ouvrir. Je crus d'abord avoir un dessin devant les yeux, puis je compris qu'il s'agissait d'une carte grossièrement ébauchée. Quelques mots l'accompagnaient en bas de page.
D'après Horty, tu ne sais pas quelle voie emprunter pour me retrouver. Ce croquis t'aidera peut-être.
Une neige lourde et humide tombait sur Castelserre, sous un plafond de nuages bas. Elle ne s'arrêterait pas de sitôt. Je me rendis dans ma salle de travail et fourrai des vêtements de rechange dans une fonte, puis j'artisai un brin. Je m'en vais quelque temps.
Très bien, la traduction du manuscrit attendra ce soir.
Vous m'avez mal compris. Je pars pour plusieurs jours au moins. Je vais voir Molly. Je sentis une hésitation, puis une opposition difficilement réprimée. Il y avait trop de travail pour me laisser partir. Les traductions, le raffinement de sa poudre auquel je collaborais, et enfin l'appel à préparer. Les manuscrits d'art indiquaient clairement qu'il fallait prévenir les habitants du royaume avant de le lancer, afin d'éviter que les parents ou les amis ne croient fous ceux qui se mettraient à entendre des voix. Cependant, il recommandait aussi de garder secrète la date exacte de l'appel, pour que les maîtres d'art ne perdent pas leur temps avec des fabulateurs. Avec agacement, j'écartai ces considérations et j'attendis qu'il répondît.
« Eh bien, va, dans ce cas, et bonne chance. As-tu averti Horty ?»
Ce fut mon tour d'hésiter. « Non, vous seulement. Pensez-vous que je doive la mettre au courant ?»
« Quel conseil tu me demandes ? Jamais sur les sujets que j'espère, mais toujours sur ceux que... Enfin, peu importe. Oui, avertis-la, sinon tu auras l'air de chercher à la tromper. »
Je contactai donc ma fille. « Horty, j'ai reçu un mot de Molly, et je vais lui rendre visite. » Soudain, l'évidence me sauta aux yeux. « Veux-tu m'accompagner ?»«
Il fait un temps de chien, et le pire reste à venir, apparemment. » Quand comptes-tu te mettre en route ?
Tout de suite.
Ce n'est pas raisonnable ?
Je n'ai jamais été raisonnable. Ces mots éveillèrent un singulier écho chez moi, et je souris.
Alors vas-y, habille-toi chaudement.
Promis, au revoir. Et je partis. Manoir n'apprécia pas de quitter son box au chaud et au sec pour affronter la tempête. Le trajet monotone se fit dans le froid et l'humidité. L'unique auberge où je m'arrêtais se révéla complète, envahie de voyageurs bloqués par le mauvais temps, et je dus dormir par terre, près de la cheminée, emmitouflé dans mon manteau. Le lendemain soir, un fermier me laissa m'abriter dans sa grange pour la nuit. La neige continua de tomber dru, et mon expédition n'en devint que plus inconfortable, mais je m'obstinais. Par bonheur, la tourmente cessa et le ciel s'éclaircit une vallée avant que j'arrive à la propriété de Burick. Comme je pressais Manoir sur le chemin enseveli sous la neige, la ferme m'apparut comme l'illustration d'un conte pour enfants. Un manteau blanc couvrait le toit de la maison et des écuries, un ruban de fumée montait de la cheminée dans l'azur et un sentier avait déjà été tracé entre le logis et les granges. Je tirai les rênes et restai un moment à contempler ce tableau. Soudain, Chevalerie ouvrit la porte d'une grange et sortit en poussant une brouette pleine de paille sale. Je l'avertis de ma présence par un sifflement, puis engageai Manoir dans la descente. Il me regarda approcher sans bouger. Je fis halte dans la cour, puis restai sur ma selle à me demander quelle formule de salutation employer. Pendant ce temps, ma monture tira 2 fois sur son mors, puis encensa brutalement avec irritation.
« Ce cheval manque de dressage ?»
fit Chevalerie d'un ton réprobateur. Il vint plus près, puis s'arrêta.
« Ah, c'est vous ?»«
Oui. » Et maintenant le passage difficile. Puis-je entrer ? Malgré ses 15 ans à peine, il n'en était pas moins l'homme de la famille désormais.
« Naturellement. »
Mais nul sourire n'accompagnait la réponse.
« Je vais m'occuper de votre jument.
Je préférerais m'en charger moi-même, si ça ne te dérange pas. » Je l'ai négligée et ça se sent. Je vais devoir la reprendre longuement en main pour y remédier.
Comme vous voudrez. Par ici.
Je mis pied à terre et jetai un coup d'œil au bâtiment d'habitation. Mais si quelqu'un à l'intérieur avait remarqué ma présence, je n'en vis rien. Je pris Manoir par les rênes et Chevalerie nous conduisit dans une écurie impeccablement rangée. Armé de pelles, Agile et Juste vidaient le fumier des boxes. Calme entrait, un seau d'eau à chaque main. À ma vue, tous s'interrompirent. Je me sentis soudain comme cerné, et l'ombre d'un souvenir remonta à la surface de ma mémoire. Œil de nuit, à la périphérie d'un rassemblement de la meute, n'aspirant qu'à s'y joindre, mais sachant que, s'il s'y prenait mal, on le chasserait aussitôt. « Je vois partout la marque de votre père ici, » dis-je, et je ne mentais pas. J'avais compris au premier regard que Burick avait construit le bâtiment en fonction de ses exigences. Les boxes étaient plus grands que ceux de Castelserre, et les volets ouverts, l'air et la lumière devaient entrer à flot. Je le reconnaissais aussi à la façon de ranger les balais et de suspendre la sellerie. J'avais l'impression de sentir sa présence. Je battis des paupières et revins à la réalité. Chevalerie ne me quittait pas des yeux.
« Vous pouvez l'installer ici, »
me dit-il en m'indiquant un emplacement, et chacun reprit ses activités pendant que je bouchonnais ma noire. Je lui donnais à boire, un peu à manger, et la quittai propre et sèche. L'adolescent passa la tête par-dessus la porte pour observer ma monture. Et je me demandais si j'allais réussir l'examen d'inspection. Mais il déclara seulement
« Belle bête !»
Oui. C'est un ami qui m'en a fait cadeau. Le même qui a envoyé Malta à ton père quand il n'a plus eu besoin d'elle.
« Ah ça, c'est une jument !»
s'exclama-t-il. Et il me conduisit vers son box. En chemin, je fis la connaissance de Bourru, étalon de 4 ans, descendant de Rousseau, que Chevalerie voulait faire saillir Malta. Et je retrouvai Rousseau lui-même. Je crois que le vieil étalon avait gardé un vague souvenir de moi, car il s'approcha pour poser un moment sa tête sur mon épaule. L'âge et la fatigue le gagnaient. « Son prochain poulain sera sans doute le dernier, » murmurai-je. « Voilà pourquoi, je pense, Burick tenait à lui pour cette monte, pour un ultime croisement entre ces deux lignées. » C'était un splendide reproducteur en son temps.
Je me rappelle le jour de son arrivée chez nous. Enfin, plus ou moins. Une femme a descendu la colline avec 2 chevaux et les a donnés à mon père. Nous n'avions même pas de grange à l'époque, et encore moins d'écurie. Ce soir-là, papa a sorti tout le bois du bûcher pour que les bêtes ne passent pas la nuit dehors.
Rousseau devait être content de le revoir, je parie. Chevalerie me regarda sans comprendre. Tu ne savais pas que c'était le cheval de ton père, longtemps auparavant? Vérité lui avait donné à choisir une monture parmi les jeunes de 2 ans, et il avait pris Rousseau. Il le connaissait depuis sa naissance. La nuit où la reine, en danger de mort, a dû s'enfuir de Castelserre, Burick le lui a laissé, et l'étalon l'a conduite jusqu'aux montagnes, sans une égratignure. L'adolescent avait l'air proprement ahuri.
Je l'ignorais. Papa ne parlait guère de l'époque où il vivait à Castelserre.
Pour finir, je me retrouvais à aider au nettoyage du fumier et à nourrir les chevaux avant même d'avoir pu voir Molly. Je racontais des anecdotes sur les chevaux que j'avais connus, et Chevalerie me fit faire le tour des granges avec une fierté bien pardonnable. Il se débrouillait parfaitement pour mener la ferme, et je lui en fis compliment. Il me montra la jument aux sabots naguère infectés et désormais guérie, puis la tournée s'acheva par la vache laitière et la dizaine de poulets logés au bout du hangar. Quand Chevalerie me ramena devant la maison, alors que ses petits frères s'ameutaient derrière nous, il me sembla que je ne m'en étais pas mal tiré avec eux.
« Maman, tu as un visiteur !»
annonça-t-il en ouvrant la porte. Je tapai des pieds pour débarrasser mes bottes de la neige et du fumier collé sur elles, puis j'entrai à sa suite. Elle m'avait vu arriver. Ses joues avaient une teinte rose vif, et elle avait lissé ses cheveux ras. Elle vit mon regard posé sur eux et, gênée, y porta la main. À cet instant, nous nous rappelâmes tous deux pourquoi elle les avait coupés. Et l'ombre de Burick s'interposa entre nous.
Bon, eh bien, le travail est fini. Je m'en vais chez Jalonnier,
dit Chevalerie avant que j'eusse le temps de la saluer.
Moi aussi, je veux y aller. Je veux voir Kip et jouer avec les petits chiens,
s'exclama Âtre. Molly se pencha vers lui.
« Tu ne peux pas toujours accompagner Chevalerie quand il va retrouver sa belle, » l'admonesta-t-elle.
« Aujourd'hui, si.
intervint brusquement l'adolescent. Il me lança un regard en biais, comme pour s'assurer que je me rendais compte de la faveur insigne qu'il me faisait.
« Je le prendrai en croupe. Son poney ne passera jamais avec autant de neige. Allez, prépare-toi vite. »«
Veux-tu une tasse de tisane, Fitz ? Tu dois avoir froid. » À vrai dire, rien ne vaut les corvées des écuries pour se réchauffer après une longue chevauchée. Mais oui, j'accepte avec plaisir.
Les garçons t'ont embauché à l'écurie.
Oh, chef, un invité.
N'empêche qu'il s'est manié une pelle.
Dans la bouche de l'intéressé, c'était un compliment. Il se tourna vers son petit frère.
Presse-toi, âtre, je vais pas t'attendre toute la journée.
S'ensuivirent quelques instants de bruyante confusion, apparemment nécessaires pour préparer un enfant de 6 ans à sortir et qui parurent n'étonner personne, à part moi. En comparaison, le réfectoire des gardes paraissait d'un calme absolu. Quand les deux garçons quittèrent la maison, Calme avait déjà fait retraite dans la soupente, tandis que Juste et Agile s'étaient assis à table. Le second feignait de se curer les ongles, alors que le premier me dévisageait sans se cacher.
« Je t'en prie, Fitz, assieds-toi. Agile, pousse ta chaise, fais de la place.
Juste, il faudrait encore du petit bois.
Tu m'envoies dehors rien que pour te débarrasser de moi.
Quelle perspicacité! Allons, va.
Agile, je t'autorise à l'aider.
Dégagez un peu de neige de la réserve de bois et mettez quelques bûches à sécher sous la pentille. » Ils obéirent, mais ni discrètement, ni de bon cœur. Quand la porte se fut refermée sur eux, Molly poussa un profond soupir. Elle ôta la bouilloire du feu et versa l'eau brûlante sur des herbes épicées au fond d'une grande tisanière qu'elle déposa sur la table. Elle sortit ensuite 2 tasses et 1 pot de miel. Enfin, elle s'assit en face de moi.
« Bonjour, » dis-je. Elle sourit.
« Bonjour. »
J'ai demandé à Horty si elle voulait m'accompagner, mais elle ne tenait pas à voyager sous les bourrasques de neige.
Je ne lui reproche pas. En outre, je crois que revenir chez nous lui est parfois pénible. Notre confort n'a rien à voir avec celui du château de Castelserre.
Tu pourrais déménager à Flétribois. Le domaine t'appartient après tout.
Je sais.
Une ombre s'étendit sur son visage, et je regrettais d'avoir parlé de la propriété.
Mais cela ferait trop de bouleversements en trop peu de temps. Les petits doivent encore s'habituer à l'idée que leur père ne reviendra pas, et, comme tu l'as constaté, chevalerie courtise une voisine.
Il me paraît un peu jeune pour ça, fis-je non sans hésitation.
C'est un jeune homme à la tête d'une grande ferme. Une autre femme à la maison nous faciliterait beaucoup la vie. Que devrait-il attendre de plus s'il a trouvé quelqu'un qui l'aime?
Comme je ne voyais rien à répondre, elle poursuivit.
S'il se marie, je pense qu'Armery ne voudra pas trop s'éloigner de chez ses parents. Elle et sa sœur sont très proches.
Je comprends.
Je comprenais, en effet.
Je ne pouvais plus considérer Molly comme la fille d'un autre que je pouvais enlever de chez elle pour l'avoir tout à moi. Elle était devenue le centre d'un monde. Elle avait planté des racines et noué des liens.
« La vie est compliquée, n'est-ce pas ? »
demanda-t-elle comme je gardais le silence. Je la regardais dans sa robe simple de couleur sombre. Elle n'avait plus les mains fines et douces. Des rides avaient creusé son visage qui n'existait pas du temps où nous nous aimions. Sa silhouette s'était arrondie et empâtée avec les années. Elle n'était plus la jeune fille à la jupe rouge qui courait sur la plage devant moi. Je n'ai jamais rien désiré de toute mon existence, autant que je t'ai toujours désiré.
« Fitz !»
s'exclama-t-elle en levant le regard vers la soupente, et je me rendis compte que j'avais parlé tout haut. Les joues empourprées, elle se couvrit les lèvres des deux mains.
« Pardon, » dis-je.
« C'est trop tôt, je sais, tu m'as prévenu. » Et j'attendrai. J'attendrai autant que tu le voudras. Je tiens seulement à ce que tu saches que j'attends. »
Elle avala sa salive, puis répondit d'une voix rauque. « J'ignore combien de temps il faudra. »
« Peu importe. » Je tendis la main en travers de la table, la paume vers le haut. Elle hésita, puis y posa la sienne. Nous demeurâmes ainsi sans parler, jusqu'au moment où les garçons rentrèrent avec un chargement de petits bois dégouttant de neige et se firent gronder par leur mère parce qu'ils ne s'étaient pas essuyés les pieds.
Je restai jusqu'à l'après-midi. Une tasse de tisane à la main, je parlais de la vie d'Ortie à la cour et je racontais aux enfants des anecdotes sur Burick à l'époque de sa jeunesse. Enfin, je scellai ma noire et leur fis mes adieux sans attendre le retour de chevalerie et d'âtre. Molly sortit me dire au revoir et m'embrassa sur la joue. Après un trajet de 3 jours, je regagnai Castelserre. Crible continua de faire le courrier entre la ferme et le château. Toute la famille vint pour la fête du printemps, et je réussis à obtenir une danse avec Molly. C'était la première fois que je dansais avec elle, et la première fois depuis des années que je dansais tout court. Par la suite, j'eus Ortie pour cavalière, qui me conseilla d'éviter d'infliger le même sort à une autre dorénavant. Mais elle sourit en disant cela. Je vis Heure au début du printemps. Grince-Gorge et lui traversaient Serre en préalable à leur tournée d'été. Il avait grandi, maigri, et paraissait satisfait de son existence. Il avait sillonné Béarn en tous sens et s'apprêtait à visiter Ripon et Orfon. 2 chansons qu'il avait composées lui-même dans la veine humoristique parurent recevoir un excellent accueil à la Cheminée Basse. Tram et Lest revinrent le même mois. L'enfant avait gagné en carrure et acquis un tempérament plus introspectif que je ne me le rappelais. Le marin s'installa au château pendant que son apprenti passait une semaine avec sa famille, d'où il nous rapporta la nouvelle que Chevalerie allait se marier 3 mois plus tard. J'assistai à la cérémonie. À voir le jeune homme se tenir devant Arménie et prononcer son engagement, tandis qu'elle souriait en rougissant, osant à peine lever les yeux vers lui, je sentis la jalousie bouillir en moi. Tout était si simple pour eux. Ils se rencontraient, s'aimaient, se mariaient, et sans doute y aurait-il un bébé dans leur berceau avant la fin de l'année, alors que mon intimité avec Molly s'arrêtait à un contact entre nos mains et un baiser sur la joue. Le temps devint chaud. Ce fut un bel été. Eliania tomba enceinte, et on ne parla plus que de cela dans tous les 6 duchés. J'avais l'impression de voir pousser les récoltes à l'œil nu. Manoir finit par connaître par cœur la route entre Castelserre et la ferme de Molly. J'aidais Chevalerie à poser les poutres des pièces supplémentaires qu'il bâtissait et regardais sa mère préparer la cuisine avec son épouse dans une atmosphère de bonne entente. Je ne la quittais pas des yeux pendant qu'elle vaquait à ses tâches domestiques, riait, touillait la soupe, écartait de son visage ses mèches qui s'allongeaient. Je n'avais pas brûlé d'un désir aussi ardent depuis mes 15 ans. Je perdais le sommeil, et, quand il m'arrivait de m'assoupir, je devais surveiller mes rêves. Je voyais Molly, je pouvais lui parler, mais toujours dans la maison de Burick, avec les enfants de Burick accrochés à ses basques. Il n'y avait apparemment aucune place pour moi dans son univers, et je devenais irascible avec tout le monde. Je rendis visite à Patience et Brodette, comme je l'avais promis, au bout d'un long trajet dans la chaleur et la poussière du plein été. Humbre m'assura qu'il se réjouissait de mon départ, tant j'avais un caractère insupportable. Je ne pus lui en vouloir. La santé de Brodette devenant délicate, Patience avait embauché 2 femmes pour l'aider à s'occuper de sa vieille servante. Je me promenais dans ses jardins, sa main usée sur le bras, et, en voyant la façon dont elle avait transformé la terre gorgée de sang du cirque du roi créé par Royal en un havre de verdure, de paix et de beauté, j'éprouvais un sentiment de sérénité que je n'avais plus connu depuis longtemps. Elle me remit quelques affaires de mon père qu'elle tira de son bric-à-brac, une ceinture d'épée toute simple qu'il avait toujours préférée, des lettres où Burick parlait de moi et une chevalière en jade. Le bijou m'allait à la perfection, et je le laissais à mon doigt une fois revenu à Castelserre. Le lendemain de mon retour, après notre leçon d'art du matin, Ortie resta pendant que les autres sortaient, sauf Humbre, mais, sur un regard de ma part, il poussa un soupir et me laissa seul avec ma fille.
« Tu es parti longtemps ? Plusieurs semaines ? » fit-elle.
Je n'avais pas vu Patience depuis des mois, et elle ne rajeunit pas. Elle hocha la tête.
Armérie attend un enfant.
Voilà une excellente nouvelle.
Oui. La maison est sans dessus dessous. Mais ma mère se sent brusquement vieillie à l'idée de devenir bientôt grand-mère.
Je dressai soudain l'oreille.
Elle m'a dit « Le temps passe plus vite avec l'âge, Horty. »
Drôle d'idée, non?
Je la partage depuis quelques mois.
Vraiment?
Il me semble pourtant que les femmes y sont peut-être plus sensibles. Je la regardais dans les yeux sans répondre.
Peut-être pas, finalement,
reprit-elle alors, et elle sortit. 4 jours plus tard, je scellai un nouveau manoir et me mis en route pour la propriété de Molly. D'un ton sévère, Humbre me prévint que je devais être de retour pour l'appel, et je le lui promis. Il faisait beau, et la jument, désormais bien dressée, était en forme pour le trajet. Grâce au long crépuscule de l'été, je pus effectuer le voyage en 2 jours au lieu de 3. On m'accueillit à bras ouverts à la ferme, car Chevalerie avait entrepris de remplacer les poteaux de la clôture du pré des chevaux. L'est calme arrachait les anciens pieux pourris. Juste Théâtre élargissait les trous, puis Chevalerie et moi plantions les nouveaux piquets bien droits. Il me parla de son futur rôle de père et de l'enthousiasme que cette perspective soulevait chez lui jusqu'au moment où il se rendit compte que les silences s'allongeaient entre mes réponses. Alors, il déclara qu'il allait emmener les petits au ruisseau et les y laisser barboter quelque temps, car il avait eu assez chaud et transpiré suffisamment pour la journée. Il me demanda si je voulais les accompagner, mais je refusais. Je me versais sur la tête un seau d'eau tiré du puits quand Molly sortit de la maison, un panier au bras.
Armérie fait la sieste. Elle supporte mal la chaleur. C'est classique pendant une grossesse. Je pensais que nous pourrions la laisser au calme et aller voir si nous trouverions des murs déjà bonnes à cueillir.
Nous gravîmes le versant peu escarpé qui s'élevait derrière la ferme, et les cris des enfants qui s'éclaboussaient dans le ruisseau en contrebas s'éloignèrent puis s'éteignirent. Nous passâmes devant les impeccables ruches en paille qui bourdonnaient doucement dans la tiédeur du jour et parvînmes au roncier. Molly me conduisit de l'autre côté, jusqu'à son extrémité sud où, me dit-elle, les fruits arrivaient toujours à maturité en premier. Ces abeilles s'activaient là aussi. Certaines à récolter le pollen des dernières fleurs, d'autres le jus des mûres qui avaient éclaté sous le soleil. Nous remplîmes le panier à moitié, et puis, comme je tirais à moi une branche hérissée d'épines, afin que Molly pût en prélever les fruits de la pointe, une des butineuses se fâcha. Elle se précipita sur moi, s'empêtra dans mes cheveux, puis dégringola dans mon col. Je lui assénai une claque et jurai en sentant une vive piqûre. Je me reculai du roncier en battant des mains pour chasser 2 autres abeilles qui s'étaient mises à tournoyer autour de moi en bourdonnant furieusement.
« Éloigne-toi vite !»
me lança Molly, avant de m'attraper par la main et de m'entraîner en courant dans la pente. Un des insectes me piqua encore derrière l'oreille avant qu'il ne décide d'abandonner la poursuite.
« Hé, nous avons oublié le panier là-haut, avec toutes les mûres. Veux-tu que j'essaie d'aller le chercher ?»«
Pas tout de suite. Attends un moment qu'elle se calme. »«
Non, ne frotte pas. L'aiguillon a dû rester dans la plaie. Laisse-moi voir. »
Je m'assis à l'ombre d'un aulne et elle me fit pencher la tête pour examiner la piqûre.
« Oh là, ça enfle. » Et tu as bien enfoncé l'aiguillon. Bon, ne bouge plus. »
Elle tenta de le saisir entre ses doigts. Je tressaillis de douleur et elle éclata de rire.
Ne bouge donc pas.
Je n'arrive pas à le prendre avec les ongles.
Elle s'inclina sur moi et posa sa bouche sur la blessure. Je sentis sa langue chercher le dard sur ma peau. Elle le trouva, le pinça entre les dents et l'arracha. Elle le récupéra sur ses lèvres entre le pouce et l'index.
« Là, il dépassait à peine. Il y en a un autre ?»«
En bas du dos, » répondis-je, et ma voix trembla malgré moi. Elle se figea et me regarda, puis elle se tourna complètement vers moi et me dévisagea comme si elle ne m'avait pas vu depuis longtemps. D'une voix altérée, elle dit
« Enlève ta chemise. Je vais voir si je peux l'extraire. »
Je fus pris d'une sorte d'étourdissement quand sa bouche toucha de nouveau ma peau. Elle me montra le second aiguillon, puis elle posa les doigts sur une cicatrice dans mon dos et demanda.
« Qu'est-ce qui t'a fait ça ?»«
Une flèche, il y a longtemps. »«
Et celle-là ?»«
Elle est plus récente. Une épée. »«
Mon pauvre Fitz !»
Elle effleura la trace de morsure entre mon épaule et mon cou.
« Je me rappelle quand tu as reçu celle-ci. Tu avais encore tes pansements quand tu es venu dans mon lit. »
C'est vrai. Je me tournai vers elle. Je savais qu'elle m'attendait. Pourtant, je dus faire appel à tout mon courage. Très délicatement, je l'embrassai sur les joues, sur la gorge et enfin sur la bouche. Ses lèvres avaient le goût des murs. Je l'embrassai et l'embrassai encore, aussi lentement que possible, tâchant d'effacer par mes baisers les années que j'avais manquées. Je délaçai son corsage et le passai par-dessus sa tête, l'offrant nue au ciel azuré de l'été. Ses seins étaient doux et lourds dans mes mains, et je les tenais comme deux trésors inestimables. Sa jupe glissa sur la prairie, où elle se déploya comme une fleur épanouie. J'allongeai mon aimée dans l'herbe dense et sauvage, et je la pris doucement. Je rentrai chez moi. Je me sentais enfin entier, et c'était un émerveillement qu'il valait la peine de répéter. Nous restâmes quelque temps à demi assoupis, puis nous nous réveillâmes alors que les ombres s'étiraient.
« Il faut rentrer !»
s'exclama-t-elle.
« Pas tout de suite, »
répondis-je. Je l'investis à nouveau avec toute la lenteur que je pus supporter, et je n'avais jamais rien entendu de plus doux que mon nom lorsqu'elle le murmura à mon oreille au milieu de ses soubresauts. Nous redevîmes tout à coup des adolescents pris en faute quand les cris de « Maman, Fitz !» nous parvinrent. Nous renfilâmes précipitamment nos vêtements et Molly alla seule chercher notre panier de mur. Nous nous débarrassâmes des feuilles mortes et des brins d'herbe collés à nos habits et piqués dans nos cheveux, tout en riant à perdre haleine. Je l'embrassai encore une fois.
« Il faut arrêter maintenant !»
me dit-elle d'un ton d'avertissement. Elle me rendit mon baiser avec fougue, puis lança
« Je suis là, j'arrive !»
Je lui pris la main tandis que nous faisions le tour du roncier et ne la lâchai pas pendant que nous descendions la colline à la rencontre de ses enfants.